Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, demain, lundi 3 juin, à l'initiative de Madame Éliane Vauquier, maire du Chambon-sur-Lignon, un lieu de mémoire dédié à l'accueil des réfugiés et au sauvetage des Juifs sur le plateau du Vivarais-Lignon sera inauguré en présence de nombreuses personnalités, parmi lesquelles plusieurs anciens ministres, René Souchon, Jean-Jacques Carane, Laurent Vauquier, mais aussi l'ambassadeur d'Israël et le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, David de Rothschild. Un symbole important, puisque le Chambon-sur-Lignon, avec le village de Newland aux Pays-Bas, est le seul à avoir reçu un diplôme collectif de Yad Vashem pour remercier non seulement ceux qui ont été reconnus comme justes parmi les nations, comme le pasteur Trock ou le pasteur Theiss, mais aussi l'ensemble de la population de tous les villages environnants qui s'est distinguée en accueillant, cachant et protégeant presque un millier de réfugiés juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Philippe Joutard, historien, ancien recteur, spécialiste de l'histoire du protestantisme, et Aziza Green-Mariotte, maître de conférence à l'Université d'Alsace et coordinatrice scientifique du projet. Alors pour commencer, je vais m'adresser à vous, Philippe Joutard. Vous avez été impliqué dans les différents projets de musée au Chambon-sur-Lignon. Pourquoi cette gestation a-t-elle été si longue ?
Alors d'abord, c'est l'ensemble du comité scientifique. Moi-même, je ne suis arrivé que vers la fin. Je crois que c'est parce que c'est une histoire, c'est l'histoire assez complexe du plateau. Ça ne se réduit pas au Chambon. Il y a le Mazet-Sainte-Voie, il y a Tence, il y a Sainte-Agrève. Il y a eu ensuite des différences forcément d'appréciation. À chaque fois, que fallait-il mettre en valeur ? C'est un peu les raisons, je crois, qui expliquent ces différences, mais il vaut mieux se réjouir, j'allais dire, du présent. C'est pas la peine, là, cette fois-ci, c'est pas la peine de revenir sur un passé, puisque, heureusement, tout se termine bien, et il est important qu'il y ait un lieu de mémoire de vie, car l'intérêt, si l'on peut dire, du Chambon, par exemple, par rapport au camp des Milles, que je connais bien, c'est que c'est un lieu de vie, c'est un lieu où les gens ont été sauvés, et se sont sauvés eux-mêmes. Et c'est pour ça que je crois que c'est important qu'il y ait en France un lieu de mémoire de sauvetage.
Alors je voulais vous demander, Philippe Joutard, qu'est-ce qui vous a semblé important de transmettre à travers ce lieu de mémoire ? Mais je crois que vous avez répondu déjà.
Exactement, ça veut dire que tout le monde est responsable. C'est un appel à la responsabilité. Je crois d'ailleurs que tous nos lieux de mémoire autour de la Shoah ne doivent pas être des lieux de mémoire de passivité dans lesquels on pleure sur les victimes. C'est un lieu, tous ces lieux doivent, quels qu'ils soient, nous rappeler que chacun d'entre nous, nous pouvons par des gestes être responsable, et c'est ce qui est arrivé, et par les gestes les plus modestes. C'est-à-dire accueillir, ne pas, y compris des gestes négatifs, si l'on peut dire, fermer les yeux. Je pense, c'est une des originalités du Chambon, c'est pas le seul endroit d'ailleurs, les gendarmes. Eh bien, les gendarmes, ils ne se pressaient pas. Ils expliquaient qu'il manquait d'essence. Et grâce à cela, malgré toutes les expéditions qui sont faites, il n'y a qu'un seul juif qui a été arrêté par les gendarmes français. Il y a eu malheureusement quelques-uns d'autres qui ont été déportés ensuite.
Aziza Green-Mariotte, comment a été conçu le parcours muséographique ? Comment vous avez travaillé ?
Alors, avant de répondre à votre question, je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Philippe Joutard. Je crois que finalement, parler de la mémoire des vivants, c'est avéré avec le temps peut-être plus compliqué de parler de la mémoire des disparus. Et je pense aussi que l'approche des habitants était différente, puisqu'il y avait ce sentiment que leurs parents et leurs grands-parents avaient fait des choses simplement, et qu'ils ne voulaient pas que les choses soient mises en avant. Et ce qui est très intéressant avec la réalisation de ce lieu, puisqu'on a organisé des journées portes ouvertes pour les habitants, donc on a déjà le retour finalement en partie, puisque au moment des portes ouvertes, la totalité du parcours muséographique n'était pas complètement terminée. Il manquait tous les contenus vidéo. Mais on voit la réaction des habitants qui sont finalement reconnaissants de pouvoir découvrir. Et la réaction générale, c'est finalement c'est beau, c'est intéressant et c'est pas trop prétentieux. C'est pas quelque chose de trop grand. Donc c'est comme ça finalement qu'on a conçu le parcours muséographique comme un parcours historique. D'une part, qui retrace l'histoire et qui rappelle aussi le contexte général dans lequel ce sauvetage s'inscrit, qui rappelle aussi des choses qui restent méconnues, le relation avec l'international, l'importance des réseaux avec Genève, et puis la place de certaines personnalités qui avaient justement des liens avec tous les organismes, la présence aussi de tous les organismes d'entraide et de sauvetage, que ce soit des organismes chrétiens, des organismes juifs ou des réseaux non structurés. Donc un parcours muséographique qui commence avec une salle introductive sur l'importance de la période du désert. Hein. C'est le terme utilisé par les Huguenots pour parler, mais Jean-Philippe Joutard en parlera bien mieux que moi, pour parler de cette période où les Huguenots ont résisté en pratiquant leur foi. Et justement, ce terme de désert qui fait référence au désert des Hébreux. Donc déjà une première salle où le visiteur comprend l'importance de la Bible dans ce territoire protestant. Et ensuite un parcours historique qui va décliner les différentes formes de résistance, résistance civile, résistance spirituelle, résistance armée. Et ce parcours historique est complété par ce qu'on appelait la salle des témoignages, qui est une salle mémorielle où là les gens vont pouvoir découvrir un certain nombre d'extraits de témoignages, témoignages de justes, témoignages d'enfants cachés, de réfugiés, d'anciens réfugiés, ou témoignages de responsables d'organismes de sauvetage qui ont œuvré au Chambon ou en dehors du Chambon. Je pense notamment à la frontière suisse pour les passages en Suisse, puisque le plateau était une plaque tournante des réfugiés, notamment pour la Suisse. Donc voilà comment le parcours, de manière très générale, a été constitué.
Alors on va commencer par le début, par cette présentation du plateau du Haut-Vivarais et du Haut-Velay. Philippe Joutard, ce qui s'est passé au Chambon-sur-Lignon peut s'expliquer par la culture protestante des habitants ?
Ah, je le pense, hein, ce n'est pas le seul motif, hein, les choses sont toujours complexes, hein, il y a toujours une multitude d'origines. Mais il y a ce que j'appellerais les armes de la mémoire. Il y a un célèbre sermon de Trocmé qui a lancé le refuge juif en 40, dès 40, où il parlait des armes de l'esprit. Et là, j'ai envie de le paraphraser en parlant des armes de la mémoire, c'est-à-dire du souvenir extraordinairement précis qu'avaient les protestants de leur histoire, de leur temple qui avait été détruit. Quelques siècles auparavant, parlaient d'endroits comme des endroits où s'étaient cachés les prédicants, c'est-à-dire les gens qui prêchaient la résistance. Et puis, il y a cette chose extraordinaire de Roger Tarsissac, un directeur d'école, un protestant, qui édite à cette époque-là une petite gravure de la tour de Constance où avait été enfermée une prisonnière de l'Ardèche, du Vivarais, Marie Durand, pendant 38 ans, et qui avait gravé « Résister ». Évidemment, c'était en principe une gravure du XVIIIe siècle, mais ça faisait référence tout à fait précisément à l'actualité. Et d'une certaine façon, cette sorte d'affinité qui avait rapproché les protestants des juifs faisait que, pas simplement au niveau des notables, pas simplement au niveau des pasteurs, mais au niveau des simples gens. Hein, car je crois que ce qu'il faut insister là-dessus, c'est qu'on a raison de mettre en valeur Trocmé, Theiss, Lennart, mais il ne faut pas oublier que c'est un phénomène collectif. Et c'est ça qui fait la force. Et ce phénomène collectif s'explique en partie par la mémoire. Il s'explique aussi par ce qui s'est passé entre 30 et 40, c'est-à-dire le développement de structures d'accueil des enfants, pour des raisons d'ailleurs sociales, ce qui, évidemment, facilitait un peu plus tard la reconversion de ces lieux pour accueillir des enfants juifs.
Qu'est-ce qu'on appelle la résistance spirituelle ?
Alors, cette résistance spirituelle, elle s'inscrit dans une résistance plus vaste, autour d'un concept qu'a mis en valeur l'un des membres d'ailleurs de notre comité scientifique, Jacques Semelin, la résistance civile. Mm-hmm. Pour la différencier, car l'opposition c'est un mauvais terme, de la résistance militaire. Ça veut dire que elle n'est pas apparue tout de suite. Hein. Évidemment, tout à fait normalement, on a été d'abord sensible au maquis. Hein. Mais on ne s'est pas assez rendu compte pendant longtemps que déjà de cacher des gens qui étaient menacés de mort, c'était une forme de résistance. Hein. Et à cette résistance participent par exemple beaucoup plus les femmes hein, que dans le cas évidemment du maquis. Et alors, à l'intérieur de la résistance civile, on peut résister pour des raisons laïques, hein, les instituteurs ont joué un rôle, mais aussi, alors cette fois-ci, à cause de sa spiritualité, qu'il s'agisse de la spiritualité protestante, lien d'ailleurs autour de la Bible, autour des prophètes, mais aussi, il y a eu aussi d'ailleurs des catholiques, pas simplement d'ailleurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces réseaux, en particulier de départ vers la Suisse, c'est qu'on voit à la fois des réseaux juifs, des prêtres et des pasteurs, hein, ou des simples laïcs protestants et catholiques. C'est d'ailleurs peut-être le point de départ, au sens large, d'un œcuménisme entre les grandes religions du livre.
Oui, j'aimerais d'ailleurs qu'on revienne avec vous, Aziz Agril Mariotte, sur le fait que Chambon était l'une des plaques tournantes pour le passage en Suisse.
Alors,
ou c'est un peu exagéré?
Non, je pense que, enfin, évidemment, c'était pas les seuls lieux de passage, mais on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup, il y a énormément de réfugiés qui n'ont fait que passer, et on peut parler, il me semble, véritablement d'une plaque tournante. Alors, pourquoi on est quand même à 200 km de la Suisse, et donc dans une des salles, justement, on a expliqué par une carte, finalement, c'est encore le moyen le plus efficace de faire comprendre aux visiteurs comment on pouvait du Chambon-sur-Lignon et des villages voisins partir en Suisse. Donc les réseaux, ben, Philippe Ploudard a très bien expliqué l'importance des différents d'un réseau œcuménique autour de cette organisation, sachant que les filières qui partent du Chambon ne vont pas forcément jusqu'en Suisse. Hein. Il y a toute une série de relais qui sont justement pris par un certain nombre d'ecclésiastiques, mais on a aussi des pasteurs. On peut citer l'exemple du pasteur Chapal, André Chapal, qui est pasteur à la Bâtie d'Andorre, qui est donc un village en Ardèche, pas très très loin du Chambon, après Saint-Agrève, et qui va envoyer via son presbytère des réfugiés de l'autre côté en Savoie, où son frère est lui-même pasteur à la frontière suisse. Donc voilà un exemple qui montre comment... Alors pourquoi la Suisse? D'abord, les protestants sur le plateau vont réactiver des chemins de fuite qui existaient en fait à l'époque du désert. D'accord. Lorsque les prédicants allaient se former en Suisse et venaient aussi de Suisse sur le plateau. Ça, c'est la première chose.
Et donc
en
là fait, aussi, c'est une longue tradition.
Absolument.
Mais c'est une longue tradition. De la même façon que les mouvements de jeunesse unionistes qui sont très importants, qui sont très développés sur le territoire, sur le plateau, vont former des troupes en reprenant des noms de martyrs de cette époque-là, donc de héros protestants, et dans ces troupes vont dissimuler sous l'uniforme des éclaireurs unionistes un certain nombre de soit des éclaireurs israélites, soit simplement des réfugiés, des jeunes juifs qui sont réfugiés sur le plateau. C'est le même, je dirais que c'est le même processus. Mais la relation avec Genève s'explique aussi par l'importance des organismes qui sont présents au Chambon, à commencer par la CIMAD, puisque Madeleine Barrault joue un rôle important. À partir de fin 1942, la CIMAD va installer des bureaux à Valence, mmh. et va être un des organisateurs en lien avec Charles Guillon. Donc Charles Guillon a été maire du Chambon en 1931. Avant, il a été pasteur à Saint-Agrève, dans un village à côté. Et en 1940, le même jour où le pasteur Trocmé et le pasteur Theiss font leur fameux discours sur les armes de l'esprit, il va démissionner du conseil municipal du Chambon pour se consacrer à l'aide aux réfugiés à Genève. Et de Genève, en passant plusieurs fois la frontière pour notamment amener des fonds financiers pour financer l'accueil des réfugiés, il va aussi organiser ces filières avec l'aide de Marc Menner, le président donc de l'Église réformée de France, puisque c'est lui qui va négocier à Genève, directement avec les autorités suisses, les listes qui vont être élaborées par la CIMAD, les listes des réfugiés qu'on va accepter, qui vont pouvoir, une fois qu'ils auront passé la frontière, être acceptés, puisqu'ils sont pris en charge par des organismes financiers, le Joint, un certain nombre d'organismes financiers qui vont financer donc l'accueil des réfugiés et éviter évidemment le refoulement de ces réfugiés. Donc on a retrouvé et on a valorisé dans le parcours non seulement ces listes de réfugiés qui sont élaborées par la CIMAD en lien avec tous les organismes de secours, qui évidemment travaillent de manière coordonnée, mais aussi un document assez exceptionnel qu'on a retrouvé au mémorial de la Shoah, où on a un rapport au commissariat des questions juives qui dénonce la filière mise en place par Charles Guillon et le pasteur Trocmé. Donc là, c'est un rapport qui date du moment d'ailleurs où le pasteur Trocmé avait dû se cacher avec le pasteur Theiss. Et là, on se rend compte que au niveau des hautes institutions, on savait qu'il y avait des filières, mais on n'avait pas, ils n'avaient pas idée du nombre de réfugiés qui étaient en réalité dispersés sur le plateau, mais ils avaient bien compris que le Chambon était un lieu de passage et que des filières étaient organisées sous couvert d'organismes d'aide aux réfugiés, d'organismes protestants.
Justement, on sait exactement le nombre de personnes qui sont passées par le Chambon.
Non, justement. Parce que, comme vient de l'expliquer Aziza de façon extrêmement claire, il y a ceux qui n'y résident pas. Alors, ce que l'on sait, c'est ceux qui sont de façon, si l'on peut dire, pour une certaine durée, environ un millier. Mais ça va bien au-delà. Mmh. Et par définition, comme il s'agit de clandestins, on ne fera jamais le nombre exact. Alors, on a dit 5 000, c'est évidemment exagéré, parce que c'est un chiffre qui frappe. Donc, je crois qu'il y a au moins 1 000 personnes, mais il y en a certainement beaucoup plus. Et alors, ce sur quoi je voudrais aussi insister, c'est deux choses. C'est d'une part le fait qu'il y a eu aussi une conjoncture favorable. Nous savons maintenant, j'ai parlé tout à l'heure des gendarmes, mais nous savons maintenant que François Boulay le montre bien, nous savons maintenant que Pierre Bac, par exemple, le préfet, je ne sais plus son prénom, le préfet Bac, a été à fermer les yeux, d'une certaine façon. Il le dit après en 1945. Nous savons d'ailleurs, et Serge Clarsfeld dans le livre commun que nous avons fait le remarque, le signale, que y a un major allemand qui lui aussi n'a pas fait de zèle.
Ah oui.
Oui, même, c'est assez extraordinaire. Allemand, ouais. Oui, oui. Et il montre bien qu'en fait, il était certes nazi officiellement, et il était peut-être au point de vue pensé, mais il n'a pas cherché du tout faire une répression forte. Il y a quand même des choses extraordinaires. Il y a les élèves du collège Chevenol qui, en 1942, devant le préfet et un ministre du gouvernement de Vichy, défendent les Juifs officiellement. Ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs camarades, parce qu'ils sont Juifs, sont persécutés. Et il ne se passe rien. Et alors, ça m'amène à une deuxième remarque, c'est le rapport de force qui s'établit. Et qui s'établit en quelque sorte en faveur de la résistance, et qui fait que même si le commissariat aux questions juives est au courant, ils ne savent pas quoi faire. Mmh. Et le dernier point sur lequel il faudrait insister, c'est l'importance aussi des réseaux juifs. Hein. On a célébré l'année dernière le centenaire de l'OSEE, et l'OSEE a joué un rôle très important. Le réseau Garel a joué un rôle très important, mais aussi le réseau André de Marseille, mais aussi les éclaireurs israélites. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, si le Chambon attire tant l'attention, c'est parce qu'il y a la conjonction de toute une série d'organisations. On a parlé, et à juste titre, des organisations protestantes, mais il faut aussi signaler l'importance des organisations juives aussi au Chambon.
Il y a aussi un certain nombre de personnalités qui se sont réfugiées au Chambon. Aziza Grimariot, je pense à André Chouraki, Jacob Gordin, Jules Isaac, Léon Poliakov.
Alors je crois qu'on ne peut pas, si on veut parler de l'accueil des réfugiés, on ne peut pas faire une généralité de 41 à 44. Mm-hmm. Je pense qu'on a d'abord un accueil qui est limité et qui est un accueil officiel grâce aux organismes de secours. Et à ce moment-là, les organismes de secours qui interviennent sont plutôt des organismes de secours protestants. Et ensuite, après l'été 42, il y a vraiment un basculement dans la clandestinité. Et si ce rapport arrive au commissariat des questions juives, ils ont compris qu'il y avait des filières qui étaient organisées par certains organismes protestants. Ils n'ont pas du tout idée qu'il y a une telle dispersion des réfugiés, parce que je crois qu'il faut faire plusieurs catégories. On a d'abord un accueil légal avec ces organismes de secours qui font
donc
sortir.
Ça, c'est les premières années, on va
voilà,
dire.
Voilà, en 40-41, on accueille au Chambon des gens qui sont sortis des camps d'internement de la zone sud grâce aux organismes de secours, principalement la CIMAD, mais aussi l'OSEE et les EIF. Voilà, c'est les trois organismes importants. Et le pasteur Trocmé organise, avec l'aide des Quakers, le financement d'un certain nombre de maisons d'enfants et le secours suisse aux enfants, qui joue un rôle très important, puisqu'il y a 5 maisons qui sont ouvertes pendant la guerre. Et le directeur de ces maisons explique comment il y a eu 800 enfants qui ont été accueillis pendant toutes les années de guerre. Et sur ces 800 enfants, on a un tiers d'enfants juifs, uniquement pour les maisons du secours suisse. Donc ce n'est évidemment qu'une petite partie de l'accueil. Après août 42, le Chambon, comme dans tous les départements de la zone sud, est ciblé par des rafles, les rafles du 25 et 26 août. Et donc là, on bascule dans la clandestinité en partie, et les organismes de secours juifs vont intervenir dans la clandestinité, notamment l'OSEE, avec Madeleine Dreyfus et avec André Chouraki. Alors André Chouraki, il se réfugie à Chaumarget, dans un petit hameau entre Tence et le Chambon, parce que il connaît le pasteur du Chambon, le pasteur de Tence, pardon. C'est par l'intermédiaire du pasteur de Tence qu'il arrive ici. Et là, il va rencontrer Trocmé. Et quand Madeleine Dreyfus, qui est la responsable de l'OSEE, qui disperse depuis Lyon des enfants dans les fermes du plateau, il va prendre la relève de Madeleine Dreyfus et s'engager auprès de l'OSEE pour disperser les enfants dans les fermes. Et on a un témoignage qui est très intéressant dans son autobiographie, où il explique qu'on est fin 1943, printemps 44. À peu près cette période-là, il est donc l'OSEE lui confie à partir de Lyon, il a 200 jeunes Allemands juifs à cacher. Mmh. Et il explique que le plateau est plein de réfugiés, plein. Mais ces réfugiés ne sont pas tous juifs. Il y a aussi des Alsaciens, des anti-nazis, etc. Mais ou des réfugiés alimentaires, parce qu'on vit mieux au Chambon et à la campagne qu'ailleurs. Mais les fermes ont toutes reçu quasiment des réfugiés juifs, qui sont soit des enfants placés par les organismes de secours ou par les parents eux-mêmes, ou des jeunes. Enfin bref. Donc il va dans la vallée de l'Eyrieux, qui est la vallée de l'Ardèche, quand on descend en direction de la vallée du Rhône, et il frappe à tous les presbytères protestants, tous les pasteurs, et personne, parce que c'est il y a la milice qui est là, il y a les Allemands qui sont à l'affût, hein, c'est vraiment tard dans la guerre, dans les années de guerre, et il trouve porte close, et on sent qu'il est hanté par ces jeunes qu'il n'a pas réussi à sauver, et en même temps, il a une reconnaissance infini envers ce plateau qui s'est dans sa totalité, puisque à Tence on a quand même les protestants sont minoritaires, mais on a des catholiques aussi qui accueillent des réfugiés, et le pasteur Lénart, au moment des tentatives de rafle du 25 et 26 août, va aussi faire des sermons pour appeler ses paroissiens à accueillir ces juifs qui sont en danger, qui sont nos frères, c'est votre devoir. Donc les pasteurs ont eu un rôle déclencheur qui a contaminé toute la population, finalement.
Mmh. Pour finir, j'aimerais juste vous demander à tous les deux, le lieu de mémoire est accolé à une école. Est-ce que vous le dédiez particulièrement au public scolaire? Je ne sais pas.
Ah ben, moi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, puisque ce lieu de mémoire, qui est un lieu de mémoire, et nous l'avons vu tout au long de cette émission, est un lieu d'histoire aussi. Ça raconte que ce qui est prouvé. Et ça ne comble pas les vides. Mais en même temps, c'est un lieu de citoyenneté. C'est-à-dire pour appeler chacun au respect, par exemple, des différences. Et donc, par conséquent, ce genre de formation, ça se fait très tôt. Et c'est donc bien que ça se fasse dans une école, d'ailleurs au cœur même du village, là où justement se passait. Et ces écoles, on les trouve partout d'ailleurs. Par exemple, là, au Mazet-Sainte-Voie, ce qui a permis aussi un grand accueil, c'est le grand nombre d'écoles qu'il y avait.
Aziza Grill-Marriott, on sait que grâce à Pierre Sauvage et à son film « Les armes de l'esprit », le Chambon-sur-Lignon est très connu aux États-Unis. Vous attendez un public international?
Alors, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que l'objectif de ce lieu, c'était aussi de faire connaître cette histoire en France, parce que on se rend compte qu'elle est plus connue à l'étranger, grâce notamment à Pierre Sauvage. Et c'est vrai que parallèlement aux travaux du conseil scientifique pour réaliser ce parcours iconographique, le conseil scientifique a dirigé un ouvrage, La Montagne Refuge, accueil et sauvetage des Juifs autour du Chambon-sur-Lignon, qui vient de paraître chez Albin Michel, parce qu'on voulait aussi que ces travaux d'historiens soient aussi diffusés partout, que les gens puissent découvrir le Chambon et ce plateau et l'histoire de ce plateau pendant la guerre, aussi bien en venant dans ce lieu et en même temps de pouvoir s'adresser à un large public qui s'intéresse à cette histoire. Mais l'aspect éducatif reste un pan important du projet, puisque on a prévu une salle pour organiser des ateliers pédagogiques et un conseil pédagogique s'est mis en place avec sous l'égide des trois inspections d'académie, à la fois l'Auvergne, mais aussi du côté de Lyon et de Grenoble. Et donc, il y a une très forte demande de la part des groupes scolaires, je dirais à partir du CM2 jusqu'au lycée. Et le projet, il a aussi émergé face à cette demande des groupes scolaires qui venaient au Chambon pour travailler sur la question des justes et travailler les thèmes qui font partie des programmes scolaires de l'antisémitisme et de la Shoah sous un regard qui soit aussi un regard de vie, comme disait Philippe Joutard. Pour commencer, effectivement, c'est un lieu de vie, une mémoire des vivants. Et du reste, dans la salle des témoignages, à défaut de pouvoir mettre la liste finalement des réfugiés qui sont passés ou qui ont été sauvés au Chambon, on aura la liste de tous ces justes qui sont à la fois des pasteurs, des personnalités, des notables, et en même temps tous ces habitants, tous ces paysans, tous ces fermiers qui ont consciemment, en sachant ce qu'ils faisaient, accueilli et sauvé des réfugiés juifs.
Je vous remercie beaucoup Aziza Grill-Marriott et Philippe Joutard. Je rappelle que c'est demain, lundi 3 juin, que sera inauguré au Chambon-sur-Lignon un lieu de mémoire dédié à l'histoire de l'accueil des réfugiés juifs sur le plateau de Vivar et Lignon, réalisé avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.